L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes, conté par le professeur Ahmed Jabbar.
Dans la tradition scientifique arabe, la mécanique reçoit le joli titre, la belle qualification de « science des procédés ingénieux ». Et ce chapitre sur la mécanique, ce soir, après la physique la semaine dernière, porte bien son nom. Imaginez que des savants, des hommes de science, ont construit des automates juste pour le plaisir des grands de l'époque. Mais pas que cela, bien sûr. À côté de l'aspect ludique de la mécanique, il y a aussi un aspect strictement utilitaire, comme pour les horloges, par exemple, des mécanismes complexes et tant d'autres choses. Et à côté, parce que cela va ensemble, l'agronomie arabe a eu son heure de gloire, puisque l'Empire musulman a connu une véritable révolution agronomique, favorisée par tous les facteurs qui ont caractérisé cet empire monde entre les 9e et le 15e siècle. Professeur Jabbar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ce soir, c'est pratiquement tout le génie, l'ingéniosité, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est donc tout le génie et l'ingéniosité des sciences arabes et des grands scientifiques de l'époque que vous allez nous conter.
Je vais essayer.
D'accord. Alors, on va commencer avec cette première question qui est quand même essentielle. C'est quels étaient les savoir-faire, hein? Parce qu'on a dit qu'entre savoir-faire et savoir-savant, c'était quand même différent. Alors, quels étaient les savoir-faire en mécanique que possédaient, disons, les habitants de l'Empire musulman au moment des conquêtes?
Il y en avait beaucoup. Et on peut même considérer, d'ailleurs, que dans ce domaine, le savoir-faire, souvent, était du même niveau, du moins au même niveau, que le savoir savant qui va venir après. Pourquoi ? Parce que inventer des systèmes technologiques, ce n'est pas rien, et il n'est pas nécessaire d'inventer avec la théorie, ou de les justifier par des démonstrations. À partir du moment où on trouve des principes de mécanique ou de physique, et qu'on les maîtrise, et qu'ils fonctionnent, eh bien c'est une découverte en soi. Contrairement aux mathématiques ou à la physique.
La mécanique, c'est, je dirais, la suite logique par rapport à la physique la semaine dernière.
C'est même, en fait, à l'origine, une branche de la physique, puis elle s'est séparée comme une grande jeune fille pour s'autonomiser. Et là, effectivement, avant l'islam, eh bien, tous les peuples de la Terre, en particulier les peuples qui avaient des problèmes avec l'eau,
les Grecs, les Romains, les Phéniciens,
absolument.
J'en oublie beaucoup,
voilà.
Certainement.
Et donc les Persans, les Arabes, les Maghrébins, les habitants de la péninsule ibérique. Donc ils ont inventé des systèmes. Alors les premiers systèmes quand même, ce sont les systèmes hydrauliques. Alors nous connaissons bien avant l'islam, en Perse par exemple, un système tout à fait ingénieux qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle les canates. Les canates,
oui,
qui est un système d'acheminement de l'eau, acheminement souterrain, par un système de paliers et de canaux, de bouches d'aération, suffisamment sophistiquées et mesurées pour qu'on puisse acheminer pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, de l'eau de certaines sources vers les utilisateurs.
Ça existe encore dans le sud de l'Espagne.
Et surtout, ce qui est impressionnant, ça existe dans une grande distance en Iran. Et lorsqu'on est en avion, on voit des petites boursouflures sur la terre, comme des verrues, qui sont en fait les bouches d'aération de ces canates. Alors, on sait qu'on voit à partir de la Lune peut-être la Grande Muraille de Chine, mais à partir d'un avion, on voit les canates qui sont la plus belle réalisation de paysans.
C'est unique à cette région.
À cette région, oui, absolument, pour sa dimension importante.
Oui, oui.
Et puis, il y a évidemment les systèmes d'irrigation de la péninsule ibérique, avant l'islam, qui vont être perfectionnés, les systèmes d'irrigation du Maghreb, comme les fougaras, parce que irriguer, c'est une chose comme ça, d'une manière désordonnée, et puis répartir l'eau selon les surfaces des terres à irriguer, c'est beaucoup plus subtil. C'est des problèmes de proportion, etc.
C'était aussi fait, je dirais, avec un maximum d'équité pour que tout le monde puisse être irrigué en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il cultivait, j'y arrive, sans avoir à souffrir, je dirais, d'un manque d'eau, d'autant que ce sont des régions assez chaudes, où l'évaporation était quand même importante.
Absolument, et c'était bien surveillé, il y avait même des contrôleurs pour qu'il n'y ait pas d'injustice. Mmh. Voilà. Et puis, il y a aussi tous les systèmes qui permettaient de faire remonter l'eau. Le système de Noria, bien sûr, Naora, et puis il y a des systèmes plus sophistiqués qui ont été inventés, en particulier la plus connue, c'est le système hélicoïdal. Donc c'est un système où une roue tourne à l'intérieur et puis une sorte de d'aspiration de l'eau que l'on retrouve chez les Égyptiens. Mais en fait, ça vient des Romains, c'est une invention romaine. Mais comme les Romains ont occupé l'Égypte, donc...
Ils ont laissé ça en héritage.
Absolument, et même les paysans ne savent pas d'où ça vient. Jusqu'à maintenant, dans certaines régions, on l'utilise. Donc là, ça c'est un savoir-faire. Il y a aussi un autre savoir-faire qui concerne les moulins. Toutes les populations paysannes, agricoles, agraires, quand elles avaient donc des produits de la terre, il fallait les moudre, le riz, le blé, etc. Eh bien, ils ont inventé des systèmes, des moulins à eau, des moulins à vent. On pense même que les moulins à vent, leur origine vient d'Afghanistan ou de Chine. Et puis ça a circulé, parce qu'il n'y a pas de frontières pour la technologie, comme vous le savez, et pour les savoir-faire. Et on les retrouve dans une partie de cet immense empire musulman. Donc vous voyez, l'empire musulman, parce qu'il est empire monde, comme vous l'avez justement dit, il va...
C'est vous qui me l'avez appris.
Oui, il va donc bénéficier des apports technologiques de chacune de ces régions-là. Alors au début, tous ces apports technologiques sont localisés, chaque région a son apport, elle l'utilise... Elle le préserve jalousement, mais dans un empire où toutes les frontières sont ouvertes, eh bien ces technologies vont circuler. Comme les hommes circulent, le savoir savant circule, la marchandise circule, pourquoi pas la technologie. Et nous avons effectivement la technologie qui circule d'est en ouest souvent.
Il va y avoir ensuite une synthèse pour améliorer, perfectionner tous ces systèmes et tous ces savoir-faire.
Malheureusement, on ne connaît pas l'histoire de ces améliorations quand il s'agit de toutes ces technologies de savoir-faire qui ne sont pas écrites. Nous pouvons raconter l'histoire du développement de la technologie savante,
oui.
Parce qu'on sait d'où elle vient.
Oui.
Et ensuite, on a raconté dans des livres comment elle a évolué. Mais pour toutes ces techniques qui sont aussi importantes, qui ont été inventées par des gens anonymes...
Ça se perd dans la nuit des temps.
Ça se perd dans la nuit des temps, et puis surtout ça circule, ça se perfectionne par des petits bouts, comme ça. Mm-hmm. Chacun apporte son perfectionnement, et puis après, on ne le sait plus. Et on aboutit à quelque chose de merveilleux, parfois. Et quand ça ne marche pas, on l'abandonne.
Hein, c'est clair.
Pas. Donc l'histoire est très difficile à faire.
Alors, est-ce qu'il y a quand même eu des traités de mécanique publiés avant l'avènement de l'islam, dont les scientifiques arabes se seraient déjà inspirés ?
Oui, là aussi nous avons des témoignages précis, donnés d'ailleurs par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les hommes de science des pays d'islam. Leur source unique, du point de vue de la mécanique, est grecque. Ça c'est explicite. Donc nous savons qu'ils ont connu des ouvrages d'Archimède, ils ont connu des ouvrages de Héron d'Alexandrie, et ils ont connu des ouvrages d'un Byzantin qui s'appelle Philon de Byzance. Donc ce sont les trois grandes sources, toutes grecques, byzantines, qui, à partir de là, vont leur permettre d'assimiler ces savoirs à la fois techniques, mais expliqués dans des livres, et puis avec des éléments théoriques dedans. Et puis, ils vont évoluer à partir de là, et ils vont progresser. Nous allons voir comment ils vont progresser dans ce domaine de la mécanique.
Est-ce qu'il y a des ouvrages plus importants que d'autres et qui traitent de la mécanique arabe ?
Grosso modo, on peut les diviser, d'ailleurs vous l'avez bien dit dans l'introduction, en trois grandes familles. Il y a d'abord la mécanique utilitaire civile.
Donc ce que vous nous avez expliqué un peu tout à l'heure, vous avez pris un exemple, celui de l'hydraulique.
Voilà, mais ça va être sophistiqué. C'est essentiellement l'hydraulique d'ailleurs, mais aussi des appareils de levage.
La fameuse poulie de la physique.
C'est de la mécanique. C'est de la mécanique.
Oui, non, mais ça je sais.
Bien sûr.
J'en garde un bon souvenir de mon cours de physique.
Voilà, et des systèmes plus complexes encore. Et puis il y a donc ce qu'on appelle la mécanique militaire. Et ça, on en parlera tout à l'heure si on a un peu de temps. Ce sont tous les systèmes qui permettent, tous les systèmes dans lesquels il y a du mouvement, en fait. Hein, dès qu'il y a de la dynamique.
Ce que vous nous avez expliqué quand même, avec quand même certains détails la semaine dernière en physique, tous les instruments qu'ils sont ingéniés à construire pour cet art de la guerre.
Hein. Alors ça, c'est plutôt, j'ai expliqué uniquement ce qui était lié un peu à la chimie. Il y a d'autres choses.
Oui.
Il y a les chars d'assaut.
Pardon ?
Oui, il y a des chars d'assaut.
Vous avez des chars d'assaut ? Mais
bien sûr. Donc, on en parlera après.
Alors, les canons, les chars d'assaut.
Il y a les lance-roquettes. J'ai parlé des roquettes, mais il y a les lance-roquettes. J'ai parlé des scuds, si j'ose dire.
Oui, j'osais pas employer le mot la semaine dernière.
Oui, c'est des formes de scuds embryonnaires. Mais il faut les lanceurs. Donc, la mécanique va donner les lanceurs, va donner les chars, va donner ce qu'on appelle les instruments de siège. Et puis le troisième volet de la mécanique, c'est la mécanique qui distrait, qui amuse les princes.
Oui, les fameux automates. Alors, il y en avait un qui servait à boire aux princes de l'époque.
Voilà, on en parlera tout à l'heure, si on a un peu le temps. Oui. Mais c'est un chapitre très important, du moins qui a connu des développements avec des livres très importants qui nous sont même parvenus aujourd'hui. Alors maintenant, vous m'avez dit quels sont les livres.
Voilà, les plus importants qui traitent de mécanique arabe. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des grands noms aussi?
Le premier grand connu, parce que malheureusement nous sommes comme d'habitude, nous sommes de pauvres historiens des sciences. Mm-hmm. Nous ne sommes pas des conteurs de la place de Marrakech ou de Ardeya. Il faut faire attention, même si les auditeurs ont l'impression que je suis en train de raconter des légendes.
Non, 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 je suis sûre que comme moi, ils vous écoutent avec passion.
La plupart des choses que je raconte, normalement, je les ai vérifiées, sauf ce qu'on appelle les techniques de conte, bien sûr. Et donc, nous sommes tributaires, je disais, des ouvrages. Nous sommes tributaires des sources. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages écrits par des spécialistes. Mais tous ne nous sont pas parvenus. Et donc, nous ne parlons que de ce qui nous est parvenu et dont on a analysé le contenu. Parce qu'il y a même des ouvrages, des dizaines et des dizaines, qui existent sûrement, matériellement, physiquement, qui contiennent des informations très très importantes, qui pourraient nous faire faire d'autres émissions plus tard, bien sûr. Mais nous ne connaissons pas leur lieu, nous ne les avons pas étudiés, nous ne les avons pas analysés, et donc, nous ne pouvons pas spéculer. Alors, à partir donc de ce que nous savons, plus ancien livre qui nous est parvenu, il est gros quand même, hein. Il fait à peu près 400 pages, il a été rédigé par les frères Banu Moussa.
Oui, trois frères.
Trois frères, Ahmed, Mohamed et Al-Hassan. Et ce livre s'appelle tout simplement « Livre des procédés ingénieux ». Et là, il contient des solutions techniques, sophistiquées, pour des problèmes donc de mécanique utilitaire et des problèmes de mécanique ludique. Ensuite, il y a un trou. Mais il y a un trou, nous sommes convaincus que c'est uniquement un trou dont l'origine est bibliographique, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore découvert le manuscrit. Au 10e, nous n'avons pas de livre, physiquement. Au 11e, nous avons un livre, mais il n'est pas en Orient, alors que c'est l'Orient qui a commencé. Mm-hmm. Au 11e, c'est en Andalous, en Espagne musulmane. C'est étonnant. Pendant longtemps, on a pensé que la mécanique ne s'est pas développée en Espagne musulmane et au Maghreb. Mais ce livre a été découvert il y a à peine 20 ans. Donc vous voyez que la recherche, quand elle avance, on découvre les choses. Et quand la recherche avance, on dit moins de bêtises, parce qu'on corrige. Quand la recherche avance, on raconte moins de choses de type idéologique ou de type un peu charlatanesque. Mm-hmm. Donc, financez la recherche, mesdames et messieurs les auditeurs. Soutenez la recherche.
Oui, on ne le dira jamais assez.
Soutenez la recherche, vous, en tant que citoyen. En particulier la recherche sur l'histoire de ce patrimoine très riche, qui appartient à l'humanité aussi, qui nous appartient, mais qui appartient à l'humanité. Alors, donc, le second livre connu, c'est d'un certain Al-Muradi, qui apparemment est un très grand spécialiste de mécanique. Il était inconnu il y a 20 ans. Et on a trouvé un manuscrit, qui n'est pas complet d'ailleurs, dans la bibliothèque de Florence. Il a été étudié par le professeur Donald Hill et par le professeur Youssef Al-Hassan, qui est un grand spécialiste syrien. Donald Hill est anglais. Et nous savons effectivement que là aussi, les Andalous savaient fabriquer des automates, savaient fabriquer des systèmes très sophistiqués pour capter l'eau, pour acheminer l'eau. Troisième livre, c'est au XIIe siècle. Je ne parle que des grands livres qui nous sont parvenus et qui eux-mêmes, d'ailleurs, ont sûrement puisé du savoir dans les livres qui ne nous sont pas parvenus. C'est probable. Ou alors, parfois, des livres, d'ailleurs, sont tellement importants qu'ils écrasent les livres qui ont été publiés avant. Et alors, les utilisateurs oublient de recopier les livres d'avant. Et c'est peut-être pour cette raison que nous n'avons pas de livres du XIe siècle. Oui. Des livres du début du XIe siècle en Orient.
C'est
une explication. En tout cas, ça arrive pour les mathématiques, pour l'astronomie, pourquoi pas pour la mécanique. Donc, un grand livre qui est le résultat de synthèse, de progrès successifs, vient, et alors les gens voient que ce livre est absolument suffisant, pourquoi recopier les autres? Donc, le troisième livre, c'est l'un des plus importants, c'est le livre d'Al-Jazari, qui est un Syrien, qui a vécu à Diyarbakir, qui est actuellement une petite ville en Turquie, et qui a écrit un livre qui, là, développe des choses tout à fait nouvelles, dans même les concepts de mécanique, j'en parlerai tout à l'heure. Et après lui, là, nous avons plus d'ouvrages, donc ils sont tardifs, donc 13e, 14e, 15e siècle, des ouvrages qui reprennent en fait les systèmes technologiques qui ont été inventés, qui améliorent certaines choses, ou qui en fait uniquement les appliquent. Et puis il y a, à côté de ça, comme mécanique utilitaire, je l'ai oublié, c'est la mécanique liée à l'horlogerie. Et alors, pour rester dans votre question, quels sont les livres? Eh bien, nous avons des livres sur l'horlogerie. En particulier, nous avons d'abord des chapitres chez les Banu Moussa, chez Al-Jazari, chez Al-Muradi. Mais nous avons des livres spécialisés sur l'horlogerie. En particulier, un livre d'Al-Sa'ati, qui est à peu près à la même époque d'Al-Jazari, qui était aussi de Damas, et qui a fabriqué une immense horloge qui a fonctionné pendant des dizaines et dizaines d'années, qui a été même réparée, etc., entretenue par son fils. Et il nous est parvenu un livre, écrit en arabe aussi toujours, avec les schémas, etc., etc. Thank you.
rapport à l'horlogerie, je vais me permettre une question. Est-ce que les systèmes de l'époque, est-ce que les systèmes qu'on a aujourd'hui sont vraiment différents à la base des systèmes de l'époque, ou est-ce qu'on les a juste perfectionnés, ou alors vraiment c'est totalement différent?
Non, il y a eu un saut qualitatif parce que...
Peut-être avec les matières qu'on a utilisées, qu'on n'avait pas à l'époque.
C'est dû au fait que pendant toute la tradition grecque et la tradition des pays d'islam, les horloges essentiellement étaient des clepsydres. C'est-à-dire qu'elles utilisaient l'eau
oui.
ou un autre liquide.
Oui.
Et donc avec des mécanismes ingénieux, l'écoulement de l'eau faisait donc en sorte que l'heure,
qu'on avait l'heure. Tournées,
voilà.
etc.
On a inventé aussi des mécanismes sans eau, mais essentiellement pour représenter des mouvements des planètes, etc. Donc c'est l'Europe qui va développer l'horlogerie mécanique en tant que telle.
D'accord, celle qu'on connaît aujourd'hui,
voilà.
même si elle est différenciée.
Parce qu'il y a le principe du ressort,
Oui. C'est quand même bon à savoir. Alors, je suppose que les savants arabes de l'époque apportaient d'énormes contributions en mécanique. On a vu qu'il y avait trois grands chapitres. Alors, quelles sont justement les contributions arabes en mécanique? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si passionnant, de si ingénieux, de si génial?
Alors, sur le plan pratique, même si des techniques existaient, elles étaient locales, étaient utilisés à titre individuel ou de petits groupes, là les choses vont se faire en grand. Par exemple, les moulins. Il y avait des moulins par-ci par-là, là dans toutes les grandes métropoles, les villes moyennes, parce qu'il fallait nourrir les populations, des centaines de milliers de personnes, il va y avoir des centaines et des centaines de moulins. Mais pas des petits moulins, des grands moulins ou des complexes de moulins. Et ça nécessite d'améliorer aussi. Évidemment, sûrement.
La technique,
bien sûr, pour que ça marche. Parce qu'une petite technique marche toujours, on peut
bien
la réparer.
Sûr, oui,
mais une grosse technique... Alors, par exemple, on sait qu'à Bagdad, au Xe siècle, on est arrivé à juxtaposer, faire un complexe de meules, avec 100 paires de meules, avec des dizaines de moulins.
On pourrait dire des minoteries.
Absolument. Qui fonctionnent soit à l'eau, donc c'était sur des barges, et c'est l'écoulement de l'eau du fleuve qui les faisait actionner. Ou alors, on utilisait le vent, ou alors on a même inventé un principe qui utilisait, pour faire fonctionner les moulins, tenez-vous bien, les marées. Le principe de l'utilisation des marées n'est pas une invention du XXe siècle, comme force motrice, parce que l'eau va et vient.
Oui, mais voilà. Ça veut dire qu'il y a des heures précises,
Absolument.
Etc. Donc là, c'était des calculs, alors c'est mathématiques, physique et tout,
absolument.
Tout entrait en ligne de compte.
Alors que, donc, vous voyez, pendant longtemps, on utilisait la force animale, la force de l'eau simple, ben voilà, donc on a trouvé d'autres forces. Maintenant, quel est l'apport sur le plan théorique?
Oui.
Parce que tout en trouvant des solutions technologiques à des problèmes, parfois on découvre des principes de physique et de mécanique qui vont avoir leur importance sur le plan théorique et qui, s'ils sont utilisés dans un contexte différent, suivez mon regard, c'est-à-dire que si un jour il y a d'autres éléments de découvert, comme la vapeur, comme l'électricité, ce même principe qui a été découvert en pays d'islam, qui a été utilisé dans un espace réduit.
Oui, un contexte particulier.
Contexte réduit. Eh bien, il va avoir un contexte beaucoup plus large parce que de nouvelles énergies vont apparaître. Donc la combinaison de cette invention et des nouvelles énergies va décupler donc,
alors,
l'importance.
Alors, un exemple.
Par exemple, en pays d'islam, on a inventé le système de bielle-manivelle. Alors qu'on pense toujours, quand on dit bielle-manivelle, c'est la voiture. C'est la locomotive. On peut pas montrer. Oui, c'est pour faire bouger les roues.
D'accord, c'est dommage que vous puissiez pas voir le geste précis du professeur Djebar.
On a inventé avec la bielle-manivelle, on a pu réaliser physiquement, par opposition même au principe d'Aristote, la transformation d'un mouvement circulaire en un mouvement rectiligne. Mais ça, pourquoi c'est très très important? Vous faites un mouvement circulaire, et si vous avez des mécanismes, on peut transformer en un mouvement rectiligne. Ben, ça permet uniquement en faisant tourner un animal ou une roue à aube avec de l'eau, donc un mouvement circulaire. Si vous arrivez à trouver le bon système, vous pouvez transformer ce mouvement en un mouvement de piston. Les pistons ne tournent pas. Vous venez d'inventer le piston. Donc vous allez aspirer et refouler l'eau. Et donc vous avez inventé aussi le piston pour les moteurs. Et donc, si vous mettez quatre pistons, donc il y a le principe des moteurs. C'est très très important. Donc, le moteur, il lui restera quoi? Il lui restera la vapeur ou l'électricité. Et donc, le principe est acquis. Et en plus, c'était une victoire théorique parce que on a montré que Aristote n'avait pas raison. C'est pas mal de contredire Aristote.
Pour se lever de bonheur.
Absolument. Troisième élément. Ils ont inventé des systèmes de sécurité dans l'écoulement des liquides. Ils ont inventé l'arbre à cames. L'arbre à cames permet de synchroniser le mouvement. Lorsque on a un mouvement qui est donné par un système complexe.
Tous ceux qui ont une voiture ou un taxi ce soir sauront de quoi ça parle.
On a aussi inventé en pays d'islam, dans le cadre de ces inventions strictement technologiques, les soupapes coniques de régulation, qui sont beaucoup plus subtiles que les soupapes bêtes, comme ça, cylindriques. Elles sont plus fiables. Et on a inventé, je l'ai dit, donc les pompes aspirantes et foulantes. Ces inventions sont absolument indiscutées, c'est-à-dire elles sont reconnues par les spécialistes de l'histoire de la mécanique comme ayant eu lieu en terre d'islam.
Alors, on peut s'arrêter une petite minute sur les fameux automates. Il y en avait un qui pouvait servir le thé, c'est ça, au prince.
Oui.
Il y en a deux qui sont très très célèbres.
Oh, il y en a des dizaines. D'abord, il faut dire que les automates avaient déjà été étudiés par les Grecs. Et donc, on en trouve dans les livres de Philon de Byzance. Et donc, ce que vont faire les frères Banu Moussa, ce sont les premiers, c'est qu'ils vont bien assimiler les techniques utilisées par les Grecs, et puis ils vont améliorer les techniques, et ils vont sophistiquer les choses. Et donc, ils vont produire des automates qu'ils vont présenter aux princes, aux califes, etc., qui vont impressionner le public, parce que ça marche tout seul. Et en plus, ça amuse.
Ben oui.
En particulier, l'automate qu'on a présenté à l'exposition de l'Institut du monde arabe, qui sera présenté à Alger, c'est un monsieur, donc en trois dimensions, et il tient un verre et il tient une bouteille. D'une main, un verre, et de l'autre, une bouteille.
Et il verse de l'eau.
Il verse de l'eau, en fait. En fait, à l'époque, c'était pas de l'eau, c'était du vin. Parce que...
bon, alors il verse du vin, quelque
importe. Les spécialistes de l'histoire de la verroterie savent que la bouteille, telle qu'elle est dessinée dans le manuscrit, c'est pas une bouteille pour l'eau. Et le verre était trop sophistiqué, trop beau pour que ce soit... Ben, il faut dire la vérité. Et ça peut étonner les auditeurs.
Ça, c'est le chercheur, l'universitaire.
Ah ben oui.
Les faits sont les faits, on n'y déroge pas.
Hein. Ça peut étonner l'auditeur, mais de toute façon, c'était des automates pour les princes, pour les califes. Nous savons que l'élite transgressait les interdits. Voilà, donc c'est bon à savoir.
Le plus allègrement du monde,
absolument.
Parce que c'était aussi de grands épicuriens.
Absolument. Et donc là, l'automate, il fonctionne normalement. C'est-à-dire que dès qu'on verse le liquide... À un certain moment, le liquide atteint un certain niveau, et à ce moment-là, il enclenche le mécanisme. Et ce mécanisme est tellement synchronisé qu'il y a d'abord un bras qui bouge, donc c'est le bras qui tient la bouteille. Mm-hmm. La bouteille se penche, et il verse, et l'eau, effectivement, le liquide se verse dans le verre. Quand il atteint un certain niveau,
ça s'arrête,
l'autre mécanisme s'enclenche, et le verre se lève, il arrive jusqu'à la bouche.
De l'automate,
et qui boit, et c'est tellement bien fait, donc la finesse est très importante, qu'il boit, et lorsqu'il boit une certaine partie du verre, à ce moment-là, donc ça réenclenche l'autre mécanisme, et ça recommence. Alors ça plaît beaucoup, et les princes sont contents, etc., donc ils donnent de l'argent aux spécialistes de la mécanique, et c'est comme ça qu'ils ont aussi soutenu la science et la technologie.
C'était une forme de mécénat très subtil.
Voilà.
Alors justement, en agriculture, les Arabes devaient être aussi experts que les autres peuples de l'Empire musulman, alors qu'est-ce qu'ils savaient faire, eux, particulièrement?
Alors là, on peut considérer que les Arabes, s'ils étaient restés uniquement en Arabie, eh bien, même dans le cadre de l'Empire musulman, ils savaient suffisamment de choses pour qu'ils n'aient pas vraiment besoin d'apport extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en agriculture, depuis des milliers d'années, les peuples, là où ils sont, connaissant leur terre, connaissant le ciel, connaissant la météorologie, connaissant les sources, se sont adaptés pour certains types d'agriculture. Et donc ils l'ont tellement maîtrisé, tellement perfectionné qu'ils ont atteint pratiquement le top, compte tenu évidemment de la technologie du moment. Donc, qu'est-ce qui restait à améliorer ? Bien, il restait à améliorer la productivité, c'est-à-dire produire plus.
Oui, et mieux.
Il restait à mieux acheminer l'eau, ou bien acheminer l'eau là où il n'y avait pas d'eau. Donc transformer des régions un peu désertiques ou steppiques, donc en des régions fertiles. Ça, c'est nouveau. Et donc, ils avaient un savoir-faire ancien. Et ce que je dis pour les Arabes, d'Arabie, on peut le dire pour tous les peuples de l'Empire musulman.
Oui.
Mais la remarque est intéressante. Votre question, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il faut bien savoir que l'Empire va juxtaposer, à des distances petites ou grandes, des savoir-faire qui sont tous d'un niveau absolument élevé, ce qui est le résultat de milliers d'années d'expérience, et qui pouvaient être complémentaires à condition que les idées circulent. Comme pour la technologie, les idées agricoles et agronomiques vont circuler. Non seulement les idées, mais les produits agricoles vont circuler. Ils vont d'abord circuler comme produits de consommation, parce que quand on est dans une région, et quand on entend dire qu'il y a des produits qu'on ne connaît pas, mais qui sont bons, ou qui peuvent soigner, c'est lié aussi à la médecine, on verra. À ce moment-là, puisque les frontières sont ouvertes, nous sommes dans un même empire, d'abord l'élite, puis les autres,
bien
vont
sûr.
Tout faire pour essayer de consommer ces produits.
Donc ce qu'on appelle aujourd'hui les produits exotiques,
produits
par exemple.
Exotiques, produits de luxe, produits rares, etc. Oui. Et à un moment donné, ensuite, quand cette consommation qui n'était que de la petite élite des califes et des courtisans et des sultans, quand ça va être dans une élite qui va être quantitativement de plus en plus importante, eh bien un autre phénomène va apparaître. On va acclimater ces produits. On ne va plus aller les chercher très très loin, en Chine ou ceci, cela. On va prendre des éléments, des racines, des graines, etc.
Des semences.
Et on va les acclimater là où on est, là où sont les consommateurs.
Ça a marché pour tous les produits ?
Et alors justement, c'est là où intervient l'agronomie savante. Parce que tant que vous allez chercher un produit et le vendre, il n'y a pas de science. Il y a le savoir-faire de celui qui les a produits.
Absolument.
Et c'est pas mal. Nous sommes toujours dans le savoir-faire. Mm-hmm. Si vous prenez des graines et que vous essayez, après plusieurs essais, plusieurs efforts, etc., des échecs, vous réussissez à les acclimater, c'est que vous avez inventer des démarches. Eh bien, c'est une démarche scientifique. Effectivement, l'agronomie scientifique, on peut considérer qu'elle a été réellement développée en pays d'Islam et surtout en Espagne musulmane, l'Andalus, en Orient et en Espagne musulmane.
Est-ce qu'il y a des ouvrages, justement, sur l'agronomie scientifique arabe qui ont été écrits ?
Oh là là, il y en a eu des dizaines. Des dizaines et des dizaines. Je ne veux pas ennuyer les auditeurs par des noms, mais dans mon petit livre que j'ai écrit en 2001.
Ahmed Jabbar, une histoire de la science arabe, entretien
oui, oui.
avec Jean Rosmorduc. Voilà, oui. Je vous l'ai donné en direct live.
Si on prend déjà les livres qui nous sont parvenus après le Xe siècle, il y a les livres de Al-Kutubi, d'Ibn Yusuf, de l'Afdal, de l'Amiri, de Nabulsi, de Yazada.
9e siècle, vous avez dit ?
À partir du
9e siècle.
Du 10e, 11e siècle.
10e, 11e.
Ceux-là sont plus tardifs. Alors, les livres ont des titres très jolis, d'ailleurs. Livre des splendeurs de l'esprit, livre du sel de l'agrume dans la connaissance de l'agriculture, livre du désir des agriculteurs au sujet des arbres productifs et des basiliques, livre de l'agriculture, livre du signe de l'agrume dans la science de l'agriculture. Livre de la réussite de l'agriculteur.
Oui, ça a l'air très savant, effectivement.
Ben oui, absolument. Et donc là, on met tous les éléments qui permettent donc à l'agriculteur de faire produire sa terre d'une manière un peu plus savante.
Quels sont les grands thèmes qui sont traités par les ouvrages arabes d'agronomie ? Est-ce que ça traite uniquement de l'agriculture, comment l'améliorer, la productivité, etc. ? Ou alors ce sont, comme vous avez dit, certaines démarches, certaines recherches, tout ce à quoi ils ont abouti, comme vous l'avez dit tout à l'heure ?
Alors, ils vont reprendre ce qu'ils savaient faire, mais de manière plus consciente, et ils vont essayer donc de faire des études. Alors, ils vont s'intéresser à la nature des sols, alors qu'avant, ils travaillaient comme ça, mais là, ils vont apprendre à distinguer la nature des sols.
Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle culture pour n'importe quel sol, c'est
et
connu.
Et tout ça parce qu'ils ont eu à acclimater des produits, des nouveaux produits. Ils vont étudier la fertilisation des sols. Si une nature du sol est ingrate, comment la fertiliser ?
Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé sur les engrais aussi.
Ils vont travailler bien sûr sur les engrais. Il y a des livres où on explique très bien quels sont les engrais naturels qu'il faut mettre dans tel ou tel endroit, à telle et telle époque, etc.
Plus ou moins d'azote ici, plus ou moins...
On ne les appelait pas azote, etc., mais ce sont des produits naturels.
Oui.
Voilà. Ils ont tenu compte de la météo en relation avec la terre. Donc la météorologie va être centrale dans l'étude, dans les livres d'agronomie, pour conseiller aux agriculteurs à quel moment il faut planter
tel produit,
tel fruit, tel agrume, etc., telle plante. Ils vont étudier la gestion de l'eau, comment arroser. Quand arroser ? Quelles sont les doses ? Donc ce n'est plus d'une manière comme
empirique,
ça ancienne, empirique, traditionnelle, ça marche dans une région.
Ça c'est de la recherche universitaire, on pourrait dire aujourd'hui.
À tel point qu'effectivement, il y a eu des jardins botaniques. Nous savons qu'en Andalus, il y a eu les jardins des califes qui ont été volontairement consacrés, financés par les califes, Abdelrahman III, Al-Hakam, qui ont financé l'étude... des études agronomiques par des grands spécialistes qui ont écrit comme Ibn Awam et qui testaient les plantes, qui testaient les produits qui venaient d'ailleurs. Et je vous donnerai après la liste des produits, des plantes qui sont arrivées de l'Est et qui ont été acclimatées au Maghreb et en Espagne.
Alors, donnez-nous-la tout de suite. Pourquoi alors, nous faire attendre comme ça?
Alors, bon, dans ces régions, on connaissait le palmier.
Oui, bon,
on connaissait l'olivier, oui. On connaissait les vignes.
Oui.
Et on va continuer à développer ces trois plantes.
D'accord, et donc y améliorer leur production et leur productivité.
Voilà. Mais on avait aussi, par exemple, importé le citron, les oranges. Ça n'existait pas dans la région
ça
du Maghreb et de l'Espagne musulmane. De l'Est, d'Asie, de Chine.
D'accord. Ça, c'est arrivé au Maghreb et en...
En Andalousie.
En Andalousie.
On a acclimaté le riz, le sorgho, l'aubergine, l'épinard.
Ah, c'est bon tout ça.
On a acclimaté l'artichaut, la pastèque, la banane, la mangue, dès le 10e siècle. Tous ces produits n'existaient pas dans certaines régions. Et des produits de l'Ouest ont été acclimatés au centre de l'Empire et à l'Est, parce que c'était un empire ouvert.
Oui, oui.
Et parce qu'il y avait cette, à la fois cette consommation des grandes villes, l'existence de cette élite plus ou moins aisée, et puis aussi cette curiosité qui est devenue même un fait culturel. Comme elle était curieuse de connaître l'histoire des marins, l'histoire des commerçants, les aventures extraordinaires, dont on a quelques aspects dans les Mille et une Nuits, eh bien on était curieux de savoir que mangeaient les voisins, que mangeaient les coreligionnaires à des milliers de kilomètres. Ça ne vous étonne pas donc à partir de là, et là, ça c'est une remarque très importante, que l'art culinaire est étroitement lié à l'agronomie. Et que l'art culinaire va avoir ses livres en pays d'islam. Et qu'il faudrait même une émission spéciale sur l'art culinaire, sur la fabrication des mets, sur la fabrication aussi des pâtisseries, de toutes les confiseries, de tout ce qui fait grossir.
Hélas, mais c'est bien. Tellement bon.
Voilà. Ce qui explique aussi d'ailleurs que certains diététiciens en pays d'islam conseillaient beaucoup, surtout pour ceux qui mangeaient beaucoup et qui mangeaient bien, le sport. Donc le sport a été une dimension très importante dans la diététique.
On va le voir en médecine.
Et dans l'hygiène, bien sûr, on y reviendra. Voilà, donc vous voyez, tout était lié. Et effectivement, vous avez très bien dit au départ que nous sommes en présence d'une révolution agronomique. Révolution à la fois dans la production, dans l'acclimatation des produits, dans la consommation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître à cette civilisation. C'est aussi important que d'établir des théorèmes.
Ah, mais c'est absolument génial. Alors écoutez, moi je retiens votre idée de faire une émission sur l'art culinaire, la pâtisserie, tout ce qui fait grossir mais qui est tellement bon. Et je suis sûre que les auditeurs et les auditrices s'enlèchent déjà les babines. Alors dernière question. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'auteurs musulmans qui se sont justement spécialisés dans l'agronomie? Est-ce qu'il y a des grands noms comme ça qui ressortent un petit peu?
Alors je vous ai signalé quelques-uns tout à l'heure.
Mais c'était surtout des écrits, surtout ce qui avait été écrit.
Mais je vais, puisque j'ai signalé des auteurs d'Orient, je vais vous signaler quelques noms de l'Occident musulman, surtout de l'Andalus. Il faudrait les connaître parce que certains de ces livres nous sont parvenus. Alors il y a Ibn Wafid au XIe siècle, recueil sur l'agriculture. Il y a Ibn Hajjaj, livre satisfaisant sur l'agriculture. Il y a Ibn Bassan, qui est de l'Andalus aussi, qui est du XIe siècle, le livre de l'intention et de la démonstration. Vous imaginez, en parlant d'agriculture, d'agronomie, il met le mot démonstration.
Mm-hmm. Il y en a qui sont strictement maghrébins?
Non, nous n'avons pas encore trouvé de livre de maghrébins, c'est-à-dire ayant produit au Maghreb. Vous savez, la question, nous considérons en tant qu'historiens que Maghreb et Andalus, c'est un même espace intellectuel.
D'accord.
Et que parfois des gens sont d'origine berbère, mais on ne les reconnaît pas, parce qu'ils sont nés au Maghreb, ou bien ils sont nés de famille berbère en Andalus, leur nom est arabisé, et ce sont des savants, et eux-mêmes ne précisent pas. Et donc, c'est illusoire de savoir qui est arabe à 100%, qui est berbère à 100% dans cette tradition, surtout de l'Occident musulman, et qui est espagnol ou portugais à 100% ou à 50%. Nous, en tant qu'historiens des sciences, on a abandonné cette enquête.
D'accord, parce que ce n'est pas l'essentiel, en fait.
Alors, par exemple, il y a au XIIe siècle, At-Tarnari, qui a écrit le livre de la fleur du verger et de l'agrément des esprits. Il y a Ibn Awam, qui est un Andalou très connu, qui a écrit le livre de l'agriculture. Et Ibn Raqam, qui a écrit le livre de l'ultime spécialisation, sous-entendu, dans l'agronomie. Mm-hmm. Et puis il y a un des derniers, Ibn Layoun, qui est un Andalou, 14e siècle, il a écrit un poème. Il a considéré que c'était plus pratique que l'agriculteur, parce que quand même les agriculteurs avaient un niveau de formation
On le voit avec...
qui les amenait à lire l'arabe. Mm-hmm. C'était pas des paysans complètement ignorants. Et alors il leur a fait un poème sur l'agriculture. Et nous l'avons. Il y a même des schémas, etc., etc. Et ça s'appelle Urjuza fil filaha. Et donc, si on apprend certains vers, vous savez, les poèmes, c'est des poèmes de Rajaz, donc on peut les apprendre par cœur très facilement. Bien, on a des fiches dans sa tête pour planter tel ou tel produit, etc.
Voilà. On peut le faire sur son, dans son jardin ou absolument. Sur son balcon aussi.
Absolument. Même les fiches sont dans votre tête.
Ah mais c'est absolument prodigieux, hein, franchement. Chaque semaine est un enchantement. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire encore en une minute, hein, une minute et demie justement, sur mécanique et surtout agronomie? Parce que là, vraiment, je reste, j'ai envie de dire, presque bouche bée à découvrir tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Surtout qu'on est bientôt à l'heure du dîner et je suppose que le repas de ce soir, pour ceux qui vous auront écouté, sera totalement différent. Hein.
Alors, il faudrait peut-être dire un dernier mot sur un autre domaine qui est lié à l'agriculture, lié à l'agronomie. Parce que quand on dit agriculture, ce sont les anciennes méthodes, etc. L'agronomie, ça veut dire qu'il y a des recherches nouvelles.
Oui, oui, oui.
Eh bien, c'est ce qu'on appelle la botanique.
Ah, la science des plantes, des fleurs.
On peut la lier, bien sûr, à la médecine.
Oui.
À travers les plantes médicinales.
Oui.
Mais les plantes médicinales elles-mêmes, elles vont être produites, elles vont être d'abord cueillies, mais certaines vont être acclimatées. Donc il y en a des centaines et des centaines, mais il était préférable, compte tenu de la consommation importante dans les villes, d'acclimater aussi des plantes médicinales. Et donc l'agronomie va avoir un rôle dans le développement de la culture des plantes médicinales et de certaines qui étaient médicinales mais qui étaient un peu comme l'opium, etc., qui servaient pour anesthésier. Oui, bon, que ça servait à autre chose, ça, l'histoire ne le dit pas.
Si vous m'en regardez.
Oui. Par contre, la botanique, elle permettait donc ça, et puis elle permettait aussi, par exemple, de produire des fleurs. On a oublié les fleurs. Les fleurs, on ne va pas les consommer en tant que telles.
Non, mais c'est un ornement, ça fait partie de l'architecture, enfin, je veux dire, de la décoration, plus exactement, etc.
Plus que ça, parce que les fleurs, elle alimentait une industrie. Elle permettait de décorer, mais elle alimentait une industrie. En plus, certaines fleurs étaient des médicaments. Quelle est cette industrie? C'est l'industrie des parfums. L'industrie de ce qu'on appelle les produits de grande consommation dans la cuisine, comme l'eau de fleurs d'oranger, comme l'eau de fleurs de rose.
Qu'on utilise beaucoup encore
jusqu'à aujourd'hui. Il y a même aujourd'hui, dans les pays maghrébins, des techniques de distillation de ces produits qui sont les techniques inventées en pays d'islam bien avant le XIIe siècle. Et jusqu'à aujourd'hui. Et à froid, on faisait ça.
Oui, oui. Et donc, première pression à froid qui est la meilleure,
voilà.
En fait.
Donc voilà ce domaine très important. Ce domaine très important de la botanique qui, en principe, doit être lié aussi à l'agronomie et à l'agriculture. Parce que la connaissance des plantes permettait à la fois de les utiliser pour se soigner, de les utiliser pour une hygiène de vie, mm-hmm. bien sûr, et de les utiliser pour la cuisine et aussi pour la beauté des lieux. Voilà, pour l'esthétique.
Après donc tout, c'était l'esthétique. C'est à cheval entre l'agronomie, la médecine, enfin l'agronomie, l'agriculture et la médecine.
Voilà, absolument.
La médecine qui est, je dirais, notre prochaine émission sur cette grande saga, sur l'âge d'or des sciences arabes. Je vous remercie pour ce soir. Bon, on a l'impression qu'on reste à chaque fois un petit peu sur notre fin, mais bon, on est limité par le temps. Hein. L'heure, c'est l'heure. En tout cas, merci infiniment, professeur Djebbar. Je vais vous souhaiter un bon appétit à tous les auditeurs et les auditrices aussi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la médecine, la pharmacopée, donc c'est les médicaments, etc. Et l'art vétérinaire, parce qu'il n'y avait pas que les êtres humains, il y avait aussi les animaux. On ne les oublie pas. Bonne semaine.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Djebbar. Présentation Dalila Smaïl. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fouhar.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.